Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur RCF. En ces premiers jours de 2013, je vous souhaite au nom de toute l'équipe une belle et heureuse année 2013 pour vous et vos familles. Je reçois aujourd'hui pour cette émission spéciale de Ici en parler ensemble, Monseigneur François-Xavier Loiseau, bonjour.
Bonjour et bonne année 2013, mais une année de la foi.
Voilà, tout à fait. Puis Christophe Didier-Chat, vicaire général, bonjour Christophe.
Bonjour.
Et permettez-moi de vous souhaiter à vous aussi une bonne et heureuse année à vous et à Monseigneur pour cette année de la foi et puis cette année certainement riche en événements diocésains pour 2013. On va peut-être en parler dans vos vœux tout à l'heure. Alors, une émission un peu particulière aujourd'hui, on va parler de deux sujets principaux. D'abord, votre visite au pape Benoît XVI que vous avez effectuée au mois de novembre dernier. Et puis, on va parler du sujet un petit peu brûlant d'actualité. Dans quelques jours, Christophe, vous amènerez sur Paris une délégation pour manifester contre le mariage pour tous. On en parlera aussi dans un deuxième temps. Et puis, on terminera par vos vœux. Alors, on va parler pour le premier sujet de votre visite au pape Benoît XVI. Alors, on parle de la visite ad limina. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce mot ?
Ça a été un beau cadeau de fin d'année, disons, mais c'était à la fin novembre, quand j'ai pu aller, après avoir été hospitalisé encore pendant presque un mois et demi, quand j'ai pu aller à Rome avec de mes confrères évêques de la région pour ce qu'on appelle une visite ad limina, il faut ajouter apostolorum, c'est-à-dire visite ad limina, au seuil des tombeaux des saints apôtres Pierre et Paul. Voilà, c'est le but principal. Et c'est une démarche que font les évêques depuis longtemps, depuis sans doute après les morts de Saint-Pierre et de Saint-Paul, mais surtout ça a été codifié à partir du XIVe siècle. Et tous les 5 ans, les évêques du monde entier, par groupe, viennent vénérer les reliques des apôtres Pierre et Paul et rencontrer le successeur de Pierre. Voilà, c'est ce qu'on appelle une visite ad limina apostolorum.
Combien d'évêques de la région étaient
alors avec vous ? Alors là, il y a eu des circonstances un peu particulières, parce que normalement c'est tous les 5 ans, mais là c'était 8 ans, parce que il y a eu la mort du pape Jean-Paul II, puis ensuite le changement de rythme du pape Benoît XVI, et donc on s'est retrouvé 8 ans après, et là l'organisation était un peu différente. Au lieu d'y aller, j'allais dire presque personnellement, visiter et faire cette visite, là, on l'a fait en 3 grands groupes pour les évêques de France. Nous étions 35 évêques de la région qui va de la Bourgogne jusqu'au sud-est et Montpellier et Toulouse. Vous voyez, 35 évêques là, et la Corse. Et voilà, nous avons fait ces démarches ensemble, ce qui a été d'ailleurs un très beau moment, parce que ça a été un moment de fraternité entre nous incomparable, puisqu'on logeait pendant une douzaine de jours, dans le même bâtiment, le séminaire français à Rome, et que nous prenions nos repas ensemble, et que nous avions une vie fraternelle assez forte.
Alors, Monseigneur, comment vous vous êtes préparé à aller à la rencontre du Saint-Père ? Comment on se prépare ? Et spirituellement, psychologiquement.
La rencontre du Saint-Père est un peu un sommet, mais c'est tout un ensemble. Donc, au moins une 20aine de rencontres avec les grands services de l'Église. Mmh. Et puis ensuite, un autre moment très important, qui est une partie pèlerinage spirituel, c'est-à-dire que nous sommes allés célébrer dans les 4 grandes basiliques majeures de Rome, Saint-Pierre, Saint-Paul hors des murs, Sainte-Marie-Majeure, Saint-Jean-de-Latran. Et à chaque fois, nous chantions le credo. C'est-à-dire que nous retrouvions les sources de notre foi et nous l'exprimions, nous en témoignions entre nous et pour aussi tous ceux vers qui nous sommes envoyés. Voilà, ça c'était le principal de notre pèlerinage. Après, les rencontres avec le pape, c'est pas un surplus, parce que ça fait partie de la visite ad limina, justement. Mais c'était comme un sommet.
Alors, qu'est-ce que vous avez porté à notre Saint-Père par rapport à notre diocèse, par rapport aux problématiques ou aux joies aussi, parce qu'il n'y a pas que du mauvais, il y a aussi du bon dans notre diocèse.
Quand j'étais allé voir Jean-Paul II pour une visite ad limina en 2004, là c'est une rencontre personnelle. Ça m'engageait personnellement, ça l'engageait lui aussi, bien sûr. Et nous avions parlé très librement pendant une dizaine de minutes. Là, les choses se sont déroulées autrement. Les 35 évêques que nous étions, nous avons rencontré une première fois le pape, mais c'était pour un échange de discours du cardinal Barbarin en notre nom au pape, et ensuite la réponse du Saint-Père. Ces textes d'ailleurs sont publiés dans l'Église de Digne ou d'autres revues, c'était très important. Ensuite, on a salué le pape chacun après, mais c'était là. Une deuxième rencontre qui a été plus importante pour moi, ça a été avec les 8 évêques de la province de Marseille, autour de Mgr Pontier. Et nous étions 8 autour de lui, très simplement, comme autour d'une table, sauf que nous étions dans des fauteuils, et nous avons échangé assez librement. Lui-même n'avait pas de papier, n'avait pas de discours à faire, mais il répondait aux questions que nous lui posions. Et nous avons pu poser chacun nos questions. D'accord. Pour moi, qui revenait un peu de un an et demi, un peu de passage dans des hôpitaux, dans des maisons de convalescence et tout ça, je lui ai posé la question suivante. Très Saint-Père, je viens de passer un certain temps à l'hôpital et d'autres lieux, me sentant un peu indisponible, et heureusement que j'avais des bons collaborateurs, mais j'étais un peu loin de mon peuple. Et même si j'étais dedans, l'hôpital était à Digne. Mais je vivais comme une sorte de frustration. Et je lui demandais comment est-ce qu'on peut vivre le ministère d'évêque en étant sur un lit d'hôpital. Et alors il m'a remercié beaucoup, parce que j'ai développé cela, il m'a remercié beaucoup de mon témoignage. Et puis, je sentais qu'il était intéressé par cette question-là. Et il m'a répondu de façon très belle qu'il y avait différentes manières d'être au service du Seigneur. La souffrance en est une. Et il disait, vous avez l'exemple de Jean-Paul II. Il y a eu comme deux périodes dans sa vie. Une première période où il parcourait le monde, faisait de grandes catéchèses et lançait beaucoup de choses. Et puis, il y a eu son attentat, l'attentat vis-à-vis de lui, et puis aussi des passages à l'hôpital successifs. Et pourtant, il est resté pape jusqu'au dernier moment de sa vie. Et là, vous avez un grand témoignage, et la dernière partie de sa vie, ça a été une grande catéchèse sur la souffrance. Voilà, on vit des expériences diverses, mais on reste ce qu'on est, c'est-à-dire évêque et pape. Et puis, il me donnait l'exemple aussi de Jésus, qui a offert sa vie pour nous, jusque sur la croix. Et la souffrance nous unit au Christ et manifeste notre unité avec lui. Il y a une valeur de la souffrance comme une réalité où le Seigneur est actif et présent. Voilà. Et puis, on est sorti au bout de 50 minutes de cet entretien entre nous. Et en sortant, je me suis retourné avant de passer la porte et j'ai vu qu'il me faisait un petit signe d'encouragement qui m'a été droit au cœur.
Alors justement, comment vous revenez, après quelques semaines passées de retour de Rome, vous êtes regonflé, vous avez des projets plein la tête pour notre diocèse.
Je crois que j'ai reçu une potion papale très forte. J'ai été revigoré, réconforté. D'ailleurs, les autres évêques aussi ont été réconfortés parce que on vit quand même des moments difficiles dans notre Église, et l'Église de France en particulier. Et là, le pape nous a beaucoup réconfortés.
D'accord. Alors, si je me permets d'intervenir, peut-être l'évêque va être surpris de ce que je vais dire. Je faisais partie des quelques personnes qui étions assez inquiets du départ de notre évêque à Rome. parce qu'on s'est dit, après 10 jours d'une visite tellement intensive, et en particulier sur le plan physique, comment va-t-il revenir? Eh bien, je dois témoigner que nous avons été bluffés. Il est revenu beaucoup plus en forme que lorsqu'il était parti à Rome. Voilà, à la fois physiquement, psychologiquement, et je témoigne vraiment que ce pèlerinage a été véritablement très bénéfique pour sa personne.
Ben voilà.
Je sentais en moi les forces de vie qui reprenaient le dessus progressivement. Je dois dire que j'ai beaucoup été aidé par mes confrères évêques, hein, qui ont ralenti leur marche pour que je puisse les suivre, qui m'ont porté mes valises, et puis le réconfort d'être avec eux.
D'accord. Alors, qu'est-ce que vous retirez de cette visite sur le plan projet éventuel pour notre diocèse? Est-ce que vous avez des lignes directives ou c'est encore prématuré pour justement...
On n'a pas eu de directives précises, hein. On a été réconforté dans ce qu'on faisait. Entendu et réconforté. Et ça, c'est un grand soutien, hein, pour nous. Non, moi, je n'ai pas de directive précise.
Est-ce que le Saint-Père a reparlé un petit peu de l'année de la foi qu'il a mis en place il y a quelques mois?
Il a été question de l'année de la foi de multiples façons, là, et puis dans les grands services de l'Église aussi. Comment on le mettait en œuvre, à quoi s'engageait. Et puis, à Rome, il sortait d'une grande réunion mondiale avec des représentants du monde entier, qu'on appelle un synode, sur la nouvelle évangélisation. Et ils étaient un peu dopés aussi par ce synode, où ils s'étaient vraiment réconfortés les uns les autres, et en donnant un nouvel élan aussi à la mission de l'Église. Et je pense que ça se ressentait dans ce qu'on entendait d'eux et ce que nous vivions ensemble.
D'accord. Alors merci beaucoup. On va faire une petite pause musicale et on va passer au deuxième sujet où on va discuter tous les trois du mariage pour tous, le projet de loi que le gouvernement actuel veut mettre en place assez rapidement. Et on va en parler dans quelques instants après cette petite pause musicale que voici. Voilà, nous sommes toujours avec François-Xavier Loiseau, évêque du diocèse de Digne, Riez et Sisteron, et de Christophe Didier Chaffe, son vicaire général. Merci encore d'être avec nous. Alors, on va parler du mariage pour tous et de l'adoption aussi des personnes homosexuelles. Vous êtes positionné, Monseigneur, par rapport à ce projet de loi. Christophe, vous allez dans quelques jours aller sur Paris et amener une délégation diocésaine pour manifester contre ce projet de loi. Vous allez nous expliquer pourquoi. Forcément, l'Église est contre ce mariage pour tous.
Pas forcément, mais c'est pas l'Église en tant que telle, c'est comme être humain, personne responsable dans cette société, citoyen, que nous intervenons, bien sûr, avec ce que nous sommes, c'est-à-dire dans une Église et avec nos valeurs propres aussi que nous avons à proposer, mais c'est comme hommes et femmes dans cette société. Je crois que cette question du mariage élargi aux personnes homosexuelles, même si on n'a rien contre les personnes homosexuelles, ben, qui vivent leur vie, vraiment, il n'y a aucune homophobie de notre côté, mais je crois que cela va à l'encontre de toute la grande tradition, finalement, de l'humanité, depuis les origines, hein, et qui s'est progressivement constitué autour du mariage d'un homme et d'une femme et des enfants qui leur sont donnés ou qui sont adoptés. Voilà un peu notre position et que nous défendrons dans le débat national.
Alors il y a le Pax, le Pax civil de solidarité qui aurait pu peut-être être réaménagé au lieu de passer par le mariage ou non ? Qu'est-ce que...
Personnellement, je le crois fondamentalement. Évidemment qu'on aurait pu encore élargir les droits économiques, les droits patrimoniaux auxquels peuvent prétendre les personnes homosexuelles, mais je pense qu'il n'était pas nécessaire de toucher au mariage comme institution fondamentale. Vous savez, personnellement, moi je crois qu'un des grands problèmes de notre société et de notre culture, c'est que nous refusons ce que j'appelle la transcendance. Je vais un petit peu développer ça. Et quand je parle de transcendance, je ne parle pas d'abord de transcendance au sens religieux du terme. Pour moi, la transcendance, c'est de reconnaître qu'il existe des lois qui nous dépassent et qui nous structurent. Voilà. Mmh. Et aujourd'hui, nous n'acceptons plus qu'il y a des lois qui nous dépassent et qui nous structurent. Je pense par exemple à une loi transcendante qui nous dépasse et qui nous structure, c'est celle de la différence des sexes. Et toute société s'est toujours construite sur la différence des sexes. J'étais un petit peu étonné parce que la veille de Noël, le 24 décembre, j'ai acheté un journal et dans lequel un certain nombre d'intervenants disaient que l'Église parlait et présentait une anthropologie qui est une anthropologie chrétienne. Je suis désolé, mais dans notre opposition à l'extension du mariage aux personnes homosexuelles, nous ne le faisons pas au nom de l'anthropologie chrétienne, mais nous le faisons au nom de l'anthropologie générale. Je sais qu'il existe différentes anthropologies, mais aucune des différentes anthropologies n'a jamais nié la différence des sexes. Voilà. Et toute société, je pense par exemple à la société antique, la société grecque, la société latine, qui était très ouverte aux pratiques homosexuelles, l'État n'a jamais organisé les relations affectives entre personnes du même sexe. L'État a toujours organisé les relations hommes-femmes. Donc je crois qu'il ne faut pas toucher au mariage comme cette institution qui unit un homme et une femme en vue de la génération de nouvelles vies pour la suite de la société.
Mais alors est-ce que c'est pas une suite logique de l'évolution de la société où on voit que les familles sont disloquées, il y a des divorces, il y a des remariages, des recompositions familiales, est-ce que et recomposition donc avec homme ou femme, est-ce que c'est pas la suite logique de cette évolution de la société ou est-ce que nous en tant que est-ce que l'État est obligé de suivre cette société-là pour peut-être gagner des voix électorales et autres?
Écoutez, moi personnellement, je ne le pense pas. Je pense qu'un homme d'État doit dire, même si ça doit lui coûter des voix en moins, doit dire ce qui est fondamental pour le présent, l'avenir des personnes et donc de la société.
Alors justement, vous expliquiez tout à l'heure que divers syndicats se sont révoltés entre guillemets contre le message de l'évêque. Vous répondez à quoi à tous ces gens-là qui n'ont peut-être pas forcément compris ce que Monseigneur a voulu dire dans son allocution?
Attendez, alors je voudrais intervenir parce que ce que j'ai donné comme, je ne sais pas si c'est consigne, enfin j'ai fait un texte à l'adresse des chrétiens du diocèse, chers diocésains, et j'ai écrit le 5 décembre. Et j'ai conseillé de se mobiliser pour une grande manifestation nationale contre le projet de loi le 13 janvier prochain à Paris. Mais je n'ai pas voulu du tout contraindre les personnes de quelque bord que ce soit. Hein. C'est une proposition.
D'accord.
Ben voilà, je pense que l'évêque a répondu. Ces personnes-là invoquent le principe de laïcité. Je me permets avec beaucoup de respect et d'amitié de leur rappeler le principe de la séparation de l'Église et de l'État. Un évêque catholique a quand même le droit de s'adresser de la manière dont il veut à ses fidèles. D'ailleurs, je rappellerai que ce message n'a été diffusé qu'au sein des communautés catholiques. D'ailleurs, quand l'évêque avait reçu les journalistes avant Noël, il n'a pas du tout, dans les colonnes des journaux reçus, appelé à manifester. Donc, respectons la séparation de l'Église et de l'État. Moi, je ne me mêle pas de ce qui se dit dans les réunions du Parti communiste ou des syndicats. Donc, je leur demande au moins d'avoir le même respect envers nous.
Comment ça va se passer cette journée du 13 janvier? S'il y a des auditeurs qui souhaitent se joindre au cortège, qu'est-ce qu'ils doivent faire?
Eh bien, tout simplement me contacter, ils trouveront mes coordonnées à l'évêché de Digne, sachant que très certainement, mais je n'ai pas les dernières informations, il ne doit plus rester de place dans les trains spéciaux qui ont été organisés. Donc nous rejoignons les trains spéciaux qui partiront donc pour un aller-retour dans la journée. Nous partons d'Aix en Provence TGV dimanche 13 janvier vers 9h du matin pour un retour le soir vers 23h. Et nous nous joignons au collectif qui s'appelle La Manif pour tous parce que c'est ce collectif qui nous a semblé le plus équilibré pour nous opposer à cette extension du mariage aux personnes homosexuelles. Parce que l'évêque l'a dit au début de cette interview, il est clair que nous ne voulons rejoindre aucun mouvement qui prônerait l'homophobie.
Oui. Alors, la position de l'Église de France et des évêques de France par rapport à ce sujet-là, est-ce qu'il y a une lettre qui est sortie?
Non, mais on a eu des textes et des proclamations fortes. Par exemple, à l'Assemblée des évêques de France, en début de novembre, il y a eu une intervention assez forte du cardinal 23, qui est notre président, et qui a été applaudi par tous et soutenu par tous, par tous les évêques présents. Ensuite, on a eu encore de lui plusieurs interventions. À Rome, au cours de la visite ad limina, nous avons été soutenus aussi par les instances supérieures de l'Église. Mais tout ça pour dire que ce n'est pas une position uniquement chrétienne ou catholique ou du cercle fermé de la hiérarchie catholique, c'est pas ça. C'est que nous touchons là des fondements, je vais employer un mot important, anthropologiques, c'est-à-dire de la conception de l'homme dans l'humanité, dans ce qui fait notre univers. Et c'est ça qui est important.
Par rapport donc à l'adoption aussi des personnes homosexuelles, là aussi ça touche le fondement de la famille. Donc ça joue un petit peu cette manifestation du mariage pour tous, puisque c'est lié indirectement aussi.
Ah ben, c'est-à-dire ce n'est pas lié indirectement.
Enfin, c'est lié, oui.
Au départ, on ne savait pas si le gouvernement distinguerait le mariage pour tous de la question de la filiation et de l'adoption. Donc il apparaît qu'il lie les deux choses, donc le mariage et donc l'ouverture à l'adoption. Là aussi, pour nous, pourquoi est-ce que nous nous opposons? Bien sûr que deux hommes, bien sûr que deux femmes peuvent donner de l'amour, bien sûr, et peut-être même que deux hommes et deux femmes peuvent donner plus d'amour qu'un homme et une femme. Mais est-ce que c'est suffisant de dire ça? Et est-ce que c'est suffisant dans la construction psychique d'un enfant? Voilà. Vous savez que l'enjeu de toute vie, c'est quoi? C'est d'accéder à l'altérité, au sens de l'autre. Voilà. Eh bien, moi, je crois que la différence sexuelle, c'est le premier accès à l'altérité. Bien sûr que ça ne dit pas tout de l'altérité, mais si dès le départ, on prive un enfant d'accéder à l'altérité par cette première différence qui est la plus repérable, qui est la plus visible, excusez-moi l'expression, qui est la plus palpable, on rend plus difficile l'accès à l'altérité. Vous savez, c'est tellement difficile dans le monde d'aujourd'hui de se construire. Alors, ne rajoutons pas de difficultés encore à d'autres difficultés.
D'accord. Alors, une autre question importante aussi, c'est est-ce que si le projet de loi venait à passer, comment concrètement, si, puisque la loi autorisera, imaginons que l'autorise le mariage homosexuel, comment l'Église va se positionner s'ils viennent vous voir pour dire ben moi je veux me marier à l'Église, et par rapport au baptême pareil, si un enfant veut être baptisé à l'Église, comment éventuellement l'Église va se positionner? Est-ce qu'on peut en parler ou est-ce que c'est prématuré déjà?
Oh, c'est prématuré parce que laissons venir les questions. Hein. J'espère que cette loi ne passera pas et qu'il y aura un débat en France à ce sujet-là et que tout le monde se réfléchisse sur les enjeux humains et sociaux de cette histoire. Alors, écoutez, moi, pour l'instant, je n'ai rien à dire sur la suite.
Il y aurait eu peut-être... est-ce que ça aurait été nécessaire un référendum sur ces questions fondamentales comme ça?
Moi, je crois que cette question-là n'est pas à mettre aux voix. Hein, ce n'est pas parce qu'il y aurait eu une majorité dans un sens ou dans l'autre qu'il faudrait fallu trancher. Ce n'est pas une question de majorité ni de sensibilité générale. C'est une question fondamentale de la structure des êtres hommes et femmes.
Ok. Un dernier mot avant de passer au vœu. Est-ce que vous avez un autre message par rapport à cette dynamique-là, par rapport à ce projet de loi dire avant de...
On en reparlera plus tard.
On en reparlera. Bon, voilà.
Pour l'instant, on est dans la dynamique d'espérer un débat et en participant à la manifestation du 13 janvier.
Voilà. Oui, moi, ce qui m'étonne en tant que citoyen, c'est que face à n'importe quelle question économique, sociale, le gouvernement accepte de prendre du temps, accepte de créer des commissions, des comités. Je pense par exemple à ce projet qui a fait beaucoup débat dans la région de l'Ouest autour de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes du côté de Nantes. Il y a eu 40 000 manifestants dans la rue. Le Premier ministre dit « nous allons créer une commission, nous allons prendre un peu de temps pour réfléchir ». Mais enfin, sur la question de l'extension du mariage aux personnes homosexuelles, qui est une révolution anthropologique, hein, cette loi passerait sans aucun débat national, sans aucun débat dans lequel interviendraient des philosophes, des anthropologues, des juristes, les membres des différentes familles spirituelles de notre pays, parce que je me permets de rappeler qu'il n'y a pas que les catholiques hein, qui sont contre ce projet de loi, hein, mais toutes les religions unanimement. Alors, nous demandons simplement un débat de société.
D'accord, voilà. J'espère que l'appel sera entendu. On va faire une pause musicale et puis on va terminer ce rendez-vous un petit peu exceptionnel en ce début d'année 2013 pour parler de vos vœux et des espoirs et des attentes pour cette année 2013. Voilà, nous sommes toujours avec François-Xavier Loiseau et Christophe Didier Chave dans les studios d'RCF pour parler maintenant des vœux et présenter vos vœux à nos amis diocésains et aux auditeurs de notre radio RCF.
Mais mes vœux, ils sont, vous voyez déjà de ce qu'on vient de parler, autour de la famille et de l'enjeu de la famille. Père, mère, enfant. Et ça, pour moi, c'est très important. Si bien que dans mon message de Noël, j'ai parlé surtout de Noël en famille. Quel bonheur plus sain et plus fort hein, que ces moments de joie, de partage, de paix entre tous, souvent en famille ou entre amis. Je crois que c'est une donnée fondamentale et c'est ce que ressort partout au moment de ces fêtes, de se retrouver en famille pour vivre intensément l'unité entre nous. Je regrette que la télé, la radio parlent surtout des repas et de tout ce qui est autour des repas et de la bouffe, hein, alors qu'il y a bien d'autres valeurs qui sont en jeu. Alors je sais bien que ça passe à travers un bon repas, qui nous permet de nous associer ensemble hein, dans la joie de bons mets à partager. Mais c'est pas tout. Et alors, je souhaitais un Noël en famille autour de cette joie partagée. Voilà. Et aussi, sans oublier qu'en ces fêtes de Noël et du premier de l'an, il y a des familles aussi qui n'ont pas eu la joie de se retrouver en famille. Parce qu'il y a des familles recomposées et que c'est difficile de se retrouver, parce qu'il y en a qui sont célibataires par nécessité, il y en a, vous savez, différentes situations qui font que certains sont sans famille. Et on ne peut pas les oublier en ces temps-là. Et puis, au moment de Noël, et ça continue maintenant, je faisais allusion aux crèches hein, qui sont dans nos maisons et un peu partout dans les églises. Et on fait une balade des principales églises où il y a des belles crèches. Et je crois que c'est une valeur provençale, et non seulement provençale, mais française et mondiale. La crèche, avec tous ses personnages, toutes ses enluminures, est au cœur de la joie et du partage de Noël. Et là, j'aime bien la crèche provençale qui regroupe sur le chemin des bergers pauvres et des rois riches, des voleurs et des gendarmes, des isolés et des hospitalisés, des familles simples et des recomposées, des chrétiens et des mécréants, comme on dit. Et dans ma foi, je vois tout cela aller vers l'étoile de Noël, l'étoile de l'Épiphanie. Voilà, c'est le bonheur saint et fort de tous les chercheurs de Dieu et de l'étoile. Voilà. Et je terminais mon message de Noël par une petite malice, justement liée à l'actualité. Je disais, fin janvier, est-ce qu'une loi nationale va bannir la crèche de nos maisons de famille ? Comment, en effet, représenter la famille composée d'un enfant, d'une femme et d'un homme si on efface la crèche ? Espérons que nos parlementaires n'oublieront pas la crèche de Noël, et nous non plus, ne l'oublions pas, quelle que soit notre situation dans l'existence, en famille ou sans famille. Bon et joyeux Noël, disais-je, mais aussi bonne année à tous.
Voilà.
En famille.
Eh bien, en tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite aussi. Puis, vous savez aussi que RCF a été présent durant ces fêtes de fin d'année auprès des gens seuls et isolés. C'est un petit peu la vocation de notre radio. Et je tenais aussi, au nom de toute l'équipe d'RCF, ben, de vous remercier pour nous permettre d'exister ici à Digne-les-Bains par l'intermédiaire de Gap et d'Avignon, parce que c'est important. C'est une voie aussi que notre Église a besoin. Et donc, vous êtes aussi partenaire de cette grande aventure que vous avez souhaitée il y a quelques années en arrière.
Moi, ces derniers jours, j'ai parcouru plusieurs maisons de retraite et qui suivent assidûment RCF et ça les soutient. De même, quand j'étais à l'hôpital, une de mes références était RCF. Eh bien, vraiment, moi, je soutiens cette radio qui nous apporte la joie de Noël et la joie d'un nouvel an éclairé par le mystère de Noël.
Christophe ?
Personnellement, comme chacune et chacun d'entre nous, j'ai été bouleversé par ce drame terrible qui a eu lieu au mois de décembre dernier aux États-Unis, cette tuerie abominable. Et j'ai été bouleversé par le témoignage d'un papa qui, parlant de sa fille, a dit « Le monde est plus beau parce que ma petite fille est passée dans ce monde ». Eh bien, les vœux que je forme, c'est qu'au 31 décembre 2013, on puisse dire de chacun de nous, le monde a été plus beau parce que nous y sommes passés, parce que nous aurons été artisans de paix, de lumière, de réconciliation, de dialogue. Et pour moi, toutes ces valeurs, elles se trouvent dans l'accueil du Christ qui a incarné ces valeurs sur cette terre. Donc c'est ce que je nous souhaite aux uns et aux autres.
Alors qu'on a encore un petit peu du temps, je vais revenir. On va parler du 9 décembre à Manosque. Il y a eu Guillaume Vivicorsi qui a fait une première étape. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu, parce qu'on n'a pas été malheureusement sur le lieu pour relater ça sur RCF?
Alors, une joie aussi éprouvée en 2012, ça a été l'admission et aussi, comme on dit, l'institution au ministère de la Parole et de l'Eucharistie de Guillaume Vivicorsi, séminariste du diocèse, qui ainsi se prépare au ministère de prêtre, s'il reste libre encore, hein. Et puis moi aussi, hein, de mon appel. Enfin, voilà une étape un peu significative. Ça a été célébré dans l'église Saint-Sauveur à Manosque parce que Guillaume effectue un stage pastoral à Manosque et il était très bien entouré et vraiment, ça a été une belle célébration. Voilà ce que je peux dire de ça. Il y avait ses parents, et puis ses amis, et puis la paroisse, les paroisses autour de Manosque.
Donc là, il va être ordonné diacre après, la prochaine étape.
Après, les autres étapes, c'est le diaconat et la prêtrise.
Et la prêtrise après.
Mais on a encore un peu de temps.
Encore un peu de temps. Ok. Ben, en tout cas, merci beaucoup à vous deux d'avoir fait le déplacement en ce début janvier pour cette émission spéciale. On aura l'occasion, Monseigneur, de vous retrouver dans des émissions pour le National et Christophe aussi, dans d'autres projets d'émissions. Puis à très bientôt. Prochain rendez-vous, c'est la semaine prochaine pour une prochaine émission. À très bientôt. Merci de votre fidélité. Au revoir.